Les béatitudes, donc, sont le début du sermon sur la montagne, le début de la prédication du Christ d'après l'évangile de Matthieu. Et cela montre que c'est là le fondement absolu, la base, l'essentiel de la bonne nouvelle de l'évangile. Et qu'y a-t-il d'important à retenir ? Eh bien, d'abord, peu de choses. C'est que ce fondement, c'est 8 fois heureux. Et ça, il est bon de le rappeler, même si ça semble évident. L'évangile, c'est le bonheur. Alors que trop longtemps, dans le christianisme, on a prêché un évangile qui était de mortification, de recherche de souffrance, d'abandon, de toute joie, là, il s'agit bien d'une quête du bonheur. L'évangile, c'est la recherche du bonheur. Ça n'est pas très original en soi. Ça se trouve, je crois, dans toutes les religions, à peu près, ou différentes philosophies humaines. La question, c'est de savoir quel est ce bonheur que nous recherchons et quel est le chemin, qu'est-il exactement ? Alors là, dans l'évangile, nous avons donc 8 fois heureux, et ces 8 fois heureux sont, je crois, 8 promesses de bonheur, mais comme vous allez le voir, ce n'est pas une leçon de morale, comme s'il y avait, il fallait faire ceci ou faire cela pour être heureux. Ces béatitudes décrivent plutôt un mode d'être qu'un comportement. Nous allons le voir, mais par exemple, il dit « ceux qui ont faim et soif de justice », avoir faim et soif de justice, ce n'est pas à la base se comporter de telle ou telle manière, c'est plutôt un état d'esprit, autrement dit, qui est là défini, état d'esprit qui conduit à ce bonheur évangélique, qui est bien complexe, vous allez le voir. Il est bien complexe parce que, déjà dans Matthieu, nous avons, j'aime bien dire, 8 béatitudes, certains en voient 9, mais mettons 8. Et dans ces 8 béatitudes, il y en a 4 qui sont positives. Ceux qui ont le cœur pur, les miséricordieux, ceux qui procurent la paix, ceux qui sont doux et humbles, et 4 qui sont négatives, ceux qui pleurent, ceux qui sont pauvres, ceux qui ont faim et soif, et ceux qui sont persécutés. Et donc on voit déjà qu'on est dans une sorte de mélange de choses complexes qui montrent que le bonheur n'est pas une chose simple. Et puis ensuite, c'est même encore plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce que dans les béatitudes positives, on pourrait dire qu'il y a là une sorte de chemin du bonheur, que le bonheur, c'est finalement ce que nous enseigne l'Évangile, c'est d'être plein de miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour, c'est d'être un artisan de paix, d'avoir la pureté de cœur et d'être doux et humble. Donc on pourrait dire, c'est le chemin, vous n'avez qu'à être doux de cœur, être des artisans de paix et être miséricordieux, et vous aurez le bonheur. Mais même là, ça n'est pas si simple. Parce que quand les béatitudes disent « heureux ceux qui sont doux ou humbles », enfin le mot grec signifie l'un ou l'autre, « doux et humble », est-ce que Jésus était doux et humble ? Doux, pas très. Quand on voit ses propos à l'égard des pharisiens, c'était tout sauf doux. Quand il s'est fait un fouet et qu'il a renversé les tables des changeurs de monnaie des marchands du temple, il n'était pas du tout empreint de douceur. Quant à l'humilité, vous me direz qu'il avait des raisons, mais celui qui se prend pour le Fils de Dieu, on ne peut pas le taxer d'une très grande humilité. En tout cas, Jésus n'était certainement pas humble. Non, je ne pense pas. Alors comment peut-on dire « heureux les doux et les humbles » ? Il semble qu'il y ait là effectivement quelque chose de complexe, n'est-ce pas ? Alors il faut donc reprendre un petit peu plus tout cela et comprendre qu'il ne s'agit pas d'un modèle moral à imiter et qu'en ce sens, saint François d'Assise s'est complètement trompé sur le sens des béatitudes parce que lui croyait que c'était un modèle moral. Alors il s'est dit, pour être heureux, il faut être pauvre, être humble et être persécuté. Alors il a fait toute sa vie ce qu'il pouvait pour être pauvre, pour paraître humble et pour être persécuté. Il a été pauvre, il a été persécuté, il a paru humble, mais peut-être a-t-il été heureux, je l'espère pour lui, mais était-ce cela le chemin de l'Évangile ? Je vais vous dire, j'en doute, très sincèrement. Je pense que les choses sont plus complexes, comme je vous le disais, et qu'il ne s'agit pas d'un modèle moral, mais d'une attitude fondamentale dans la vie par rapport à l'existence, par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Et quand il est question justement de douceur ou d'humilité, je crois que ce qui est en cause là, c'est quelque chose de très essentiel. C'est justement dans l'humilité de ne pas se mettre soi-même au centre de toutes les préoccupations. C'est ça. Et je crois que là, on touche à la chose la plus essentielle de la théologie chrétienne, qui est le péché originel. Adam et Ève ont cru justement se passer de Dieu, qui était normalement le centre de tout, et pour dire « le centre, c'est moi ». C'est moi qui décide de ma vie, le bonheur c'est par rapport à moi et je déclare bon ce qui me plaît. Ça, c'est la plus grosse erreur qui existe dans toute attitude humaine. De se prendre pour le centre du monde, pour la chose la plus importante du monde et même de prendre son moi pour la chose la plus importante de soi-même. Alors que ce que nous invite à faire l'Évangile et toute la Bible, c'est de dire le centre ça n'est pas toi, c'est Dieu, c'est-à-dire l'universel, c'est-à-dire le projet de la création, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire les autres. Et du coup, de dissoudre son propre égoïsme dans un engagement pour une cause, pour un idéal, pour le monde et pour les autres. Et je pense que là, on a un des plus grands secrets du bonheur, c'est vrai. Et c'est la même chose pour... la douceur. Il ne s'agit pas d'être doucereux. Je vous l'ai dit, Jésus ne l'était pas. Mais c'est de la douceur dans sa quête de salut et de bonheur. Malheureux celui qui croit que la vie est une sorte de combat à gagner. La vie n'est pas un combat à gagner. Le bonheur n'est pas une proie à arracher. Le bonheur n'est pas quelque chose, une chasse dure et terrible qu'il faudrait arriver à vaincre. La réussite même de sa vie n'est pas une chose qui doit se gagner par un combat, mais la vie, elle se gagne par la douceur et par l'humilité, parce que les plus grandes choses de ce monde, ce n'est pas nous qui les faisons, nous les recevons. Et celui qui sait recevoir, et celui qui sait que sa vie, il ne la réussira pas par ses propres forces, mais il la réussira s'il reçoit quelque chose de plus grand que lui, il est effectivement dans le chemin d'un bonheur exceptionnel et dans le chemin du salut. L'essentiel de notre vie, il se reçoit. C'est ce que dit tout l'Évangile en annonçant le salut par la grâce. La grâce, ça n'est pas ma réussite, c'est je reçois quelque chose qui m'est offert. Et celui qui sait recevoir et qui sait justement se libérer à la fois de son égoïsme, qui sait se libérer de son autocentrement ou autocentrage, celui qui sait se décentrer et celui qui sait se dépréoccuper de lui-même et de sa propre réussite, eh bien, il est dans le chemin de l'Évangile. Cela n'empêche pas de réussir par ailleurs, on a le droit de réussir, mais malheureux celui qui croit que c'est ça qui donnera un sens à sa vie, certainement cela ne donne ni sens à sa vie, ni bonheur profond. Quant à l'amour et à la miséricorde, je crois que c'est la même chose, puisque l'amour, c'est justement l'ouverture sur l'autre. La miséricorde, c'est, dans la Bible, sans doute le savez-vous, l'amour maternel. C'est l'amour que porte la mère pour l'enfant qui est dans son sein. L'amour maternel, le fait justement de se décentrer de soi-même pour mettre sa préoccupation essentielle sur autre chose que soi, c'est ce que fait normalement une mère qui met au monde un bébé et qui donnerait sa vie pour cet enfant. Donc l'amour maternel est certainement l'exemple même de ce que nous sommes invités à reproduire, non seulement pour, si vous êtes une jeune mère, pour l'enfant que vous venez de porter, mais pour la création tout dans son ensemble. Ce qui pose problème un peu dans cette béatitude, c'est « heureux les miséricordieux, car il sera fait miséricorde », comme s'il y avait une sorte de chantage qui ne me plaît pas beaucoup, pour tout vous dire. Mais néanmoins, je pense que toutes ces... Il est bon de savoir quand même que tous ces dons que l'on fait ne sont pas des dons totalement perdus, mais que, d'une certaine manière, nous recevons aussi de ce que nous avons donné. Et quant à ce lien entre aimer et être aimé, il veut dire simplement, je crois, que l'amour, c'est une porte que l'on ouvre. Et dès qu'on ouvre sa porte sur l'autre, eh bien l'autre aussi peut vous donner. Et quand on ferme sa porte, on devient étanche au fait même de pouvoir recevoir. Donner et recevoir, c'est passe par la même porte, je dirais. Donc si on ne donne pas, on ne peut pas recevoir. Et je crois très fondamentalement que l'amour, effectivement, est un chemin à double sens, comme le pardon du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses et nous pardonnons aussi. Il n'y a pas de sens unique dans ce domaine. Et par conséquent, c'est une logique de vie que nous sommes invités à mettre en œuvre. Quant à la pureté de cœur, pour continuer dans ces béatitudes positives, c'est probablement une des demandes qui me toujours pose le plus problème, parce que on a l'impression qu'il faudrait être parfait, être pur de tout péché et tout cela, chose évidemment impossible. Mais je pense qu'il faut le comprendre autrement, essayer de comprendre que le bonheur consiste à ne pas avoir un cœur partagé, en quelque sorte. Un cœur partagé, et comme le Seigneur nous dit qu'on ne peut servir deux maîtres, être à la fois, mettre sa vie au service de Dieu, de la paix et de l'amour, et mettre sa vie au service de l'argent ou de la possession ou du pouvoir, eh bien, heureux celui qui sait justement ne pas diviser son cœur, mais au contraire être capable de vivre en harmonie. Là, il y a quelque chose de simplement très philosophiquement juste, que le bonheur, c'est dans l'harmonie, et que l'on peut avoir, je dirais, des modes de vie, des désirs même, qui finalement s'harmonisent simplement dans un centre unique. Parce que le cœur, pour la Bible, c'est pas l'affectivité, c'est pas non plus l'intelligence directement, mais c'est ce qui est le cœur décisionnel de notre existence. Et heureux celui qui sait ce qui est important pour lui. Maintenant, il y a ce que le cœur de ma vie me demande, c'est ma foi, et il y a ce que je fais, je suis parfois en contradiction avec ce que je voudrais. Mais heureux celui qui sait en quoi il croit, heureux celui qui sait en quoi il met sa confiance, et heureux celui qui ne s'éclate pas déjà lui-même, je dirais, dans le cœur même décisionnel de son existence. Parce que alors, il est unifié autour de cette existence, quoi qu'il arrive, autrement dit. Et enfin, dans ces béatitudes positives, peut-être ma préférée, c'est « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Et effectivement, cette paix, là encore, on n'est pas simplement dans la simple pratique. Il ne s'agit pas de paix politique, mais d'une paix intérieure, de la paix avec Dieu. Et cette paix, ce n'est pas non plus de ne pas avoir d'ennui. La preuve, c'est que juste après, il dira « Heureux ceux que, quand vous serez persécutés ». Donc être persécuté, c'est plutôt être dans la guerre et avoir bien des problèmes. Mais c'est d'être un militant, je dirais, de la justice et d'être justement soi-même un acteur. Et c'est là peut-être, justement, dans cette demande-là qu'apparaît une des choses les plus essentielles des béatitudes que j'ai mis longtemps à comprendre et à entendre. C'est que toutes ces demandes, enfin toutes ces promesses plutôt, sont toujours dans le sens actif et jamais dans le sens passif. C'est toujours par rapport à soi et non pas par rapport aux autres ou par rapport aux événements. En effet, il ne dit pas « heureux ceux à qui on fiche la paix », mais « heureux ceux qui procurent la paix ». Parce que il se peut qu'on me persécute, ça ne dépend pas de moi. Par contre, être un acteur de paix, ça dépend de moi, quelle que soit la situation dans laquelle je suis. Et les béatitudes ne disent pas « heureux ceux qui sont aimés », mais « heureux ceux qui aiment », les miséricordieux. Il ne dit pas « heureux ceux qui sont entourés d'une femme pleine de douceur, d'un mari très doux et d'amis doux ». Heureux ceux qui sont doux, Ça, c'est étonnant. Il ne dit pas heureux ceux qui sont entourés de gens au grand cœur, mais heureux ceux qui ont le cœur pur. Cela veut dire que chaque fois, ce bonheur est montré comme ne dépendant pas de ce que l'on subit, mais comme étant la conséquence de sa façon d'être dans le monde. Et c'est essentiel, parce que du coup, quelle que soit la situation, le chrétien peut toujours être heureux et peut toujours trouver, quelle que soit sa situation, aussi dramatique soit-elle, tout croyant peut trouver là une source profonde de bonheur. Et ça, je le crois très essentiellement. La principale erreur existentielle de nous tous, c'est de se dire que le bonheur dépend de ce que l'on subit et de la situation dans laquelle on se trouve. Comme si notre bonheur était une sorte de forteresse assiégée par tous les malheurs qui nous menacent. Et on le voit dans les mariages, où souvent je prêche ces béatitudes, où je dis, voyez-vous, vous pouvez voir votre vie autrement. Je trouve que, matériellement, la situation des jeunes mariés est très angoissante. On leur dit tout nouveau de bonheur, comme si là, ils étaient dans une sorte de summum du bonheur, parce qu'ils sont heureux, ils sont jeunes, ils ont un métier, ils sont aimés, ils sont beaux, ils sont... Et on leur dit, pourvu que ça dure, sous-entendu, c'est pas donné. Parce que la jeunesse, vous ne l'aurez pas toujours, votre travail, vous le perdrez, la santé, vous aurez un cancer, et dans 6 ans, vous divorcerez. Et alors, où est le bonheur là-dedans? Alors on dit, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Et on sent qu'on a une espèce de forteresse lézardée de toutes parts, menacée par des ennemis plus grands que nous, et qui peut dire à la fin de sa vie qu'aucun de ses ennemis n'a réussi à l'attaquer? Quelle angoisse dans la vie! Eh bien justement, le bonheur de l'Évangile n'est pas comme cela. Parce que toujours il est possible d'aimer, toujours il est possible d'être un artisan de paix, toujours il est possible de recentrer son cœur sur Dieu lui-même, et toujours il est possible ainsi d'être doux et humble, c'est-à-dire de faire confiance à un plus grand que soi. Et c'est la même chose, je dirais, dans le comble de cette démarche, se trouve dans les 4 autres béatitudes dites négatives, qui montrent là encore que le bonheur ne dépend pas des chances matérielles. Heureux ceux qui pleurent. Ça, c'est une antinomie incroyable, un oxymore très audacieux, qui d'ailleurs me fait penser que le bonheur n'est pas de ricaner bêtement, de dire « Ah là là, on s'amuse », ce qui est malheureusement ce dans quoi tombe un bon nombre même de croyants, quand ils disent « Ah, au moment de la communion, regardez, vous avez tous des têtes d'enterrement ». Eh bien, je suis désolé. Quand je communie au culte, je ricane pas bêtement, mais je crois qu'on peut avoir un bonheur profond en soi. Et je crois aussi que même si on pleure, même si on est dans le deuil, même si on est attristé par certaines choses, on peut avoir au fond de soi-même un bonheur profond qui est d'un autre ordre que l'amusement, je dirais, terrestre, qui est une chose bien agréable et que l'on peut souhaiter provoquer, mais qui n'est, à mon avis, pas le sens de la vie. Et donc, ces béatitudes négatives montrent justement que ces choses, même les choses négatives de la vie, peuvent, en quelque sorte, contribuer au bonheur, parce qu'elles peuvent nous mettre en mouvement dans une direction qui est celle, précisément, du bonheur et de la vie. Quand le Christ nous dit « Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim », la chose est complexe parce que il y a plusieurs lectures que je rejette immédiatement, comme ceux qui disent qu'il faudrait pleurer, faudrait être pauvre, comme le pensait François d'Assise, pour hériter d'une sorte de royaume de Dieu. Je crois que c'est tout à fait contradictoire et contraire avec l'ensemble de la prédication évangélique. D'autres ont pensé que ces béatitudes sont des sortes de promesses post-mortem, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a des problèmes dans ce monde, mais que Dieu compensera. Alors, le bonheur, ce serait de se dire, pour l'instant, j'en bave, mais après, ça va aller, donc je tiens le coup en pensant à cette récompense que Dieu me donnera après la mort. C'est sans doute comme ça que la plupart des gens comprennent les béatitudes, et c'est faux. C'est faux, archi-faux, c'est une impasse et une erreur profonde théologique. Les béatitudes ne peuvent pas être comprises dans ce sens-là, et je le prouve. Je le prouve de plusieurs manières. D'abord, que certes, les promesses sont au futur. Heureux ceux qui sont pauvres, ou je ne sais quoi, car ils hériteront la terre, par exemple. Donc ce futur peut être dans l'autre monde ou peut-être ici-bas, ce que je crois. Et la preuve, c'est la suivante. C'est que parmi ces promesses futures, il y en a une qui est « ils hériteront la terre ». Mais la terre, c'est ici-bas, mes chers amis. La terre, ça n'est pas dans le royaume des cieux. Dans le royaume de Dieu ou dans après l'autre monde, il n'y a plus de terre. Et donc, si jamais la promesse est d'hériter la terre, c'est que c'est ici-bas, et c'est pas dans l'autre monde. Première preuve. L'autre preuve, c'est qu'il est vrai, toutes ces promesses sont au futur, sauf deux fois, la première et la huitième béatitude, où il est dit, « Car, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, ah voilà le royaume des cieux, est à eux. » Et ce coup-ci, Jésus a fait bien attention, il faut écouter ce qu'il dit. Il a mis le verbe au présent, pas au futur. Il ne dit pas « le royaume des cieux sera à eux », mais « le royaume des cieux, il est à eux ». Là, c'est les deux seules béatitudes. Au présent, ce sont quand on parle justement de ce que l'on risquerait de croire comme une sorte de promesse post-mortem, le royaume des cieux. Eh bien, voilà encore une autre leçon. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, c'est la même chose, ce n'est pas un autre monde, mais c'est la présence de Dieu ici-bas sur terre, c'est la vie dans la foi, et ça, ça n'est pas pour plus tard, c'est pour maintenant. Et donc ces béatitudes ne sont pas des sortes de promesses vaseuses du genre « demain on rase gratis », mais c'est vraiment une promesse pour nous, pour aujourd'hui, pour ici-bas, que Dieu n'est pas simplement une promesse dans un autre monde, mais que ici-bas, le chrétien peut trouver, dans la présence de Dieu, le bonheur dont il a besoin. Mais que ce royaume de Dieu, c'est ce bonheur même, il est trouvé, non pas tellement par ce que l'on a, je vous l'ai dit, il est trouvé par d'abord ce que l'on donne, et ensuite, c'est le sens des quatre béatitudes négatives, par ce à quoi l'on aspire, c'est-à-dire par ce vers quoi l'on se tourne. Peut-être aussi par ce qui nous manque, mais pas ce qui nous manque en disant « Ah là là, j'aimerais bien, ça me manque ceci », mais parce que je me tourne vers une réalité. C'est-à-dire que le bonheur, il est dans la dynamique de l'être, du don et de la quête. Par exemple, quand il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice », il est très bon que Matthieu, par rapport à la version de Luc, ait à chaque fois spiritualisé ses béatitudes. Luc dit simplement « heureux les pauvres, heureux ceux qui ont faim et soif ». Et Matthieu, évidemment, précise les choses en disant « mais ça n'a rien à voir avec le compte en banque, avec le fait de crever de faim en Éthiopie ou d'autres choses ». C'est heureux ceux qui ont faim et soif, et Matthieu rajoute ben, « de justice, bien sûr ». De même, les pauvres, ça n'a rien à voir avec le compte en banque. Donc Matthieu rajoute « heureux les pauvres » et il rajoute « spirituellement », c'est-à-dire ceux qui ont un esprit de pauvreté, ceux qui savent que leur argent n'est pas leur richesse, parce que ma richesse, mon trésor, ce n'est pas ce que j'ai en banque, c'est d'un autre ordre. Et heureux celui qui se sait pauvre spirituellement. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas « moi j'ai un trésor de bienfaits, de justice, de valeur et je compte là-dessus pour asseoir ma vie ». Mais celui qui dit « Seigneur, je n'ai rien et tout ce dont j'ai besoin, je ne peux que le recevoir ». Heureux celui qui est un mendiant de l'esprit, un mendiant de l'amour, celui qui a soif de grâce, d'amour, de pardon, de la présence de Dieu, celui qui n'a soif de rien, eh bien, il reste enfermé dans sa coquille, dans sa tour d'ivoire, dans sa forteresse, et aucun bienfait, aucun bonheur ne pourra jamais venir jusqu'à lui. Celui qui se sait pauvre, c'est celui aussi qui est humble. De même, celui qui a faim et soif de justice, celui qui est tendu vers la justice, celui qui désire la voir parce qu'il sait qu'il ne l'a pas. Et c'est dans cette quête, finalement, que nous pouvons avancer et que nous pouvons trouver le bonheur. Et ça va de pair avec ce que la majorité d'entre vous sait, parce que c'est souvent répété dans nos églises, que même le mot « heureux » qui est dans notre texte, dans l'hébreu, qui est la langue du Christ, eh bien le mot « heureux » vient du verbe « achar » qui veut dire « être debout et en marche », ce qui fait que le bonheur, pour la Bible, n'est pas une situation statique, où l'on se dirait « j'en profite pourvu que ça dure », mais le bonheur, c'est d'être en mouvement et d'être en marche. Et en effet, tout dans la Bible est toujours mouvement. Entre le peuple qui quitte l'Égypte pour être en marche vers la terre promise, tant qu'ils sont en marche, ils sont heureux, dès qu'ils y entrent, ce ne sont que des problèmes avec Jéricho et les batailles et tout ça. Et de même, avec dans l'Évangile, tous ces gens qui marchent sur l'eau, qui marchent sur la mer, le paralytique, dont on lui dit « lève-toi et marche », et la femme adultère à qui Jésus dit « va et ne pêche plus ». Tout est mouvement, et le bonheur est dans le mouvement. Et donc, heureux celui qui sait être en marche, justement, être en route et avancer, celui qui sait se jeter dans la vie. Et là, on s'éloigne complètement même de la vision grecque de l'ataraxie, qui est en gros de dire « heureux celui qui n'a pas de problème ». Parce que, au contraire, la vie chrétienne, c'est de se jeter tellement dans la vie qu'on va écoper des tas de problèmes, et même encore plus que ceux que vous auriez naturellement. Heureux serez-vous quand vous serez persécutés, quand on dira toutes sortes de mal à cause de moi. C'est-à-dire que le chrétien, il a tellement confiance dans ce bonheur qui lui est donné par au-delà lui-même, qu'il va même se mettre dans des situations où il va se rajouter des problèmes. Avouez que c'est très audacieux comme idée. Mais je pense que est bon tout ce qui nous met justement en marche. Et que de ce côté-là, la pauvreté matérielle, ou l'indigence, ou même la faim et la soif, peuvent, suivant l'attitude spirituelle que l'on a, soit nous mettre en marche, soit nous faire nous recroqueviller. Quand on se recroqueville sur soi-même, on n'est pas dans le sens de l'Évangile. La pauvreté matérielle peut nous mettre en marche et elle peut nous remettre en route. Et à ce moment-là, elle peut être source de bonheur. Mais ça n'est pas forcé. Et on le voit même dans la parabole des talents, où justement celui qui a reçu le moins est celui qui sera jeté dans les ténèbres du dehors. Parce que lui, sa pauvreté l'a fait s'attendrir sur son sort et l'a fait se dire qu'il n'avait rien à donner aux autres et se renfermer sur lui-même. Et donc je pense que, voyez-vous, ce qui fait avancer les choses, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui fait avancer les choses et qui produise plein de bons fruits plutôt que l'attitude morale et éthique que l'on peut avoir. Et certains auteurs vont même très loin en disant que ces béatitudes ne sont pas des promesses vagues pour un autre temps, mais que c'est un véritable programme politique. C'est-à-dire que certains disent que ces béatitudes peuvent même changer le monde. En effet, si les chrétiens vivent cela et s'ils sont capables de se mettre en communauté et de montrer qu'il y a une autre manière de vivre dans ce monde, même dans des communautés réduites où c'est plus facile de le faire, que le monde lui-même, eh bien, ce sera quelque chose qui pourra changer le monde plus sûrement que les tyrans et les dictateurs. Eh bien, certainement, y a-t-il dans ces béatitudes un vrai programme politique, probablement, mais aussi personnel pour soi-même, et que l'on trouve dans ces 8 béatitudes, finalement, tout l'Évangile, ou le résumé de tout l'Évangile, qui est un bonheur promis, je dirais, au-delà de toutes les chances et les malchances, et qui est entièrement résumé dans la première des béatitudes, comme dans tout bon texte hébraïque, qui est que l'essentiel, c'est d'être un pauvre dans l'esprit, c'est-à-dire de désirer l'esprit. Et après, si vous n'avez pas bien compris tout le sens de ces béatitudes, eh bien, il y a encore 28 chapitres dans l'évangile de Matthieu qui vont essayer de décrire, d'expliquer, de préciser le sens de ce texte qui est en quelque sorte le sommaire de tout l'évangile. Mais croyez-le, l'évangile, du début à la fin, c'est le bonheur. Amen.